Alors, je n'ai pas préparé de discours particulier et je dois présenter Luba Jorgensen et c'est impossible, donc je vais faire au mieux. Je suis reconnaissant à Ilan Leff et au Centre Martine Buber d'avoir eu cette initiative. L'initiative vient du Centre Martine Buber et le fait qu'on fasse hommage aujourd'hui à Judith Marquiche fait résonner un nom aussi qui a résonné beaucoup dans ces murs. Pendant de nombreuses années, quand moi-même j'étais étudiant, plusieurs personnes qui sont ici présentes aussi, c'est celui de Simon Marquiche. Je les ai connus ensemble d'ailleurs, et j'ai vu pour la dernière fois Judith Marquiche autour de cartons de livres, donc pas longtemps avant sa mort, quand on triait les livres de M. Alperin, qui était quelqu'un qui fréquentait notre bibliothèque très régulièrement. Donc j'ai l'impression aujourd'hui qu'on a une espèce de boucle, enfin un tout organique qui se présente avec Luba Jorgensen qui a traduit de nombreuses choses, dont ce dont elle va parler, c'est-à-dire Grossman. Simon Marquiche, c'est aussi Grossman, c'est Villiers d'Estaing, c'est aussi Isaac Babel. Donc ce sont les mêmes pôle d'intérêt avec des approches très différentes, mais le thème d'aujourd'hui, les écritures juives, font partie des centres d'intérêt parmi de nombreux autres de Simon Marquiche et aussi de Luba Jorgensen. Donc en fait, tout ça est très harmonieux à mon avis. Alors pour la présenter de manière à ce qu'il lui reste quand même quelques minutes pour parler, parce qu'elle est assise là. Luba Jorgensen est une personne qui a un champ d'action très spectaculaire, qui se divise en un certain nombre de segments qui sont tous très bien reliés. D'abord, bien sûr, l'enseignement à la Sorbonne, où elle a aussi fait ses études, son doctorat, son habilitation à diriger des recherches sur la littérature des camps, Shalam, Solzhenitsyn, et d'autres, on y reviendra. Un enseignement dont l'unité de russe profite cette année et l'année prochaine encore, puisqu'elle est suppléante dans notre unité, qu'elle a fait passer des examens toute la journée et qu'elle en fait repasser demain, donc vous serez gentils avec elle. Et puis, également à l'école des hautes études, dans un séminaire de littérature comparée, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Ça, c'est sa première facette, la plus visible, disons, dans les hautes écoles. Maintenant, il y a bien sûr la recherche. La recherche, c'est, vous l'aurez compris, d'abord, d'après ses recherches récentes, parce que le champ est extrêmement large, ça va des auteurs classiques à la littérature du XXe siècle, à la littérature de la modernité, etc., etc. Mais vous l'aurez compris, c'est la littérature des camps, d'abord des camps soviétiques, le Goulag, avec la publication complète des récits de la Kolyma, de Shalamov et bien d'autres choses, des recueils, des projets de recherche et de manière bien élargie, bien entendu, l'histoire des violences politiques en Europe centrale, en Europe de l'Est et en ex-URSS, donc tous les pays de la zone, et ça englobe bien entendu les camps de concentration et la Shoah qui fait partie d'un de ces nombreux projets de recherche. Tout ça est accompagné d'une activité éditoriale assez étonnante. Elle est directrice de plusieurs collections chez Verdier, la collection Poustiaki, chez Petra, la collection Usage de la mémoire. Elle est aussi dans le comité de rédaction de la revue Témoigner entre histoire et mémoire, etc., etc. Disons, cette activité lui permet d'une part de publier les travaux liés à ses recherches, des recueils collectifs sur les sujets que j'ai mentionnés avant. Elle lui permet aussi de faire découvrir, car Luba Jorgensen est une passeuse, elle est passeuse par ses centres d'intérêt, mais aussi par son intense activité de traduction. C'est ça, la prochaine facette qui est très importante. C'est en tout cas, en moyenne, un livre par année et en général d'un certain volume qui est publié dans sa traduction. Et ça va des auteurs qui nous intéressent ce soir, Margolin, Grossman, je l'ai dit avant, mais ça avait commencé en 1986 avec la superbe traduction de Oblomov de Gontcharov et D'autres classiques, c'est la légende du grand inquisiteur, c'est des recueils sur Tolstoï et les paysans, ce sont les carnets de Marina Tsvetaeva et la prose autobiographique dernièrement également, une fois de plus, etc. etc. J'avais pris une petite liste, mais c'est absolument ridicule. Et dernière activité, l'écriture. Parce que Lubha Jorgensen est écrivain. Et je les mentionne toutes sur pied d'égalité, car ce qui est étonnant dans ce parcours, c'est le fait que toutes ces facettes de sa personnalité et de son activité sont complètement liées les unes aux autres. Ce n'est pas qu'elle écrit le week-end quand elle a un petit moment, un petit livre comme ça. Non, elle écrit par rapport à sa vie, par rapport à ses recherches, par rapport à sa mémoire, parce que son champ de recherche, c'est quand même la mémoire et les lieux mémoriels des violences politiques, comme on l'a dit. Ça va jusqu'au musée. Elle était jusqu'en Argentine, visiter un musée de la dictature argentine, etc. etc. Donc, écrivain, oui, mais c'est aussi un temps complet comme le reste. C'est une dizaine, en tout cas, d'ouvrages qui sont parus depuis les années 80, des ouvrages romans, nouvelles, essais, des ouvrages à forte charge autobiographique la plupart du temps, qui nous permet aussi de la découvrir, elle, dans son attention aux objets du monde, dans son attention à son propre parcours qui est inhabituel aussi. Elle est arrivée à 17 ans à Paris, émigrée de l'Union soviétique. Elle a assimilé le français et elle en a fait extrêmement rapidement sa langue d'écriture. Et on peut découvrir ce parcours-là en lisant ses livres, par exemple, dans Une autre vie, un de ses premiers ouvrages. Mais il y en a beaucoup d'autres, hein, l'éducation nocturne, la boutique de vie. J'ai appris même, parce qu'elle est cachotière en plus, j'ai appris qu'il y avait encore un livre. Ah non, ça je confonds avec autre chose, je suis désolé. Parce que j'ai oublié de dire une chose qui était très importante, c'est que dans les grandes découvertes qu'elle a faites ces dernières années dans son activité de traduction, c'est la découverte de Gershovitch. C'est là que je ne savais pas qu'un livre venait de sortir en 2015 et qui s'intitule Une histoire de plage, Meurtre sur la plage. Mais Gershovitch, c'est presque plus de 10 ans, disons, de traduction de ses œuvres qui nous a révélé au public français un auteur de grande envergure avec lequel elle entretient une complicité telle que Gershovitch l'a même traduite en russe, un de ses romans, et que le résultat est une autre œuvre qu'il s'agira de retraduire ou qui est retraduite en français. Vous voyez, donc, pour dire qu'il y a un intérêt dans les choses de la vie, un intérêt très particulier pour le fait littéraire, qui, même dans son travail sur les camps, sur la mémoire, se porte sur l'esthétique. Et son ouvrage magistral, je dirais, qui est signalé dans le flyer, c'est l'expérience concentrationnaire est-elle indicible, c'est-à-dire est-ce qu'on peut utiliser des procédés esthétiques pour parler de ça. Et ça, elle le démontre dans ce livre qui, à mon sens, a beaucoup renouvelé les études sur la littérature des camps. À quoi on peut ajouter la lecture de Création et tyrannie, parue en 2009, qui complète très bien une collection d'essais un peu sur des sujets voisins. Donc je ne veux pas parler plus, juste signaler que dans les œuvres qu'elle a fait paraître toutes ces dernières années, eh bien, il y en a une qui vient de paraître, c'est 2014, pour lequel elle va aller recevoir dans une semaine le prix Valérie Larbaud, qui s'appelle Au lieu du péril, et qui raconte son interculturalité, disons, et aussi son rapport avec différentes langues. J'avais envie de vous lire un petit passage, si vous me donnez une minute, et si Lubha me permet, qui, je pense, intéressera le public qui est ici. Et parfois, on y est avant Babel, par Isaac, Babel, la tour. À Lyon, aux Assises internationales du roman, au moment du petit déjeuner, chaque table parle sa langue. Et que parlent-ils ces deux-là, un couple assis un peu à l'écart? Ils chuchotent presque d'ailleurs. Impossible de les entendre, et soudain, à leur attitude, à l'intonation qui nous parvient sans les mots, un murmure de vent, un fond sonore, l'expression des visages, ils parlent hébreu. J'assiste à un moment historique. Leonid Gershovitch se lève, va saluer Aaron Appelfeld. Pardon. Un dialogue commence en hébreu, pendant que j'échange quelques propos avec Madame Appelfeld en anglais. Mais ni l'un ni l'autre ne parviennent à rester dans cette langue qu'ils sont pourtant si heureux de partager. Ils glissent vers l'allemand. Puis tous les deux constatent qu'ils ont passé à l'allemand et ils redressent le cap, les voilà repartis du côté hébreu. Et de nouveau, de quoi peuvent s'entretenir deux juifs à la table du petit déjeuner? De leurs errances, de leurs lectures, de Pétersbourg, de Tchernovitz, Tchernovtsi, etc. De la dérive des langues. À présent, ils mélangent carrément l'allemand et l'hébreu, ils parlent la langue des rêves. Et je comprends tout. Tout. Non parce que mon hébreu balbutiant se serait ressourcé à je ne sais quelle mémoire atavique, mais parce que derrière les langues qu'ils sont en train de parler, j'entends celles qu'ils ne parlent pas. Le russe pour l'un, le roumain pour l'autre, que je ne parle pas, mais dont j'ai la mélodie dans l'oreille. Les langues d'avant permettent d'entrer dans le rêve des autres. Elle présente son livre demain à 18h ou 18h30, suivant les informations qu'on a, à la librairie du Rameau d'Or, avec signature, dans le cadre de la Fureur de lire. Donc, je vous invite à venir demain soir à 18h. Et pour l'instant, donc, Grossman, Margoline et Babel. Merci.